Alors, c'est une double joie de vous retrouver ce soir, une joie de reprendre cette école de prière après les vacances, mais même de la reprendre après ce temps d'interruption lié d'abord au confinement, puis au déconfinement et à l'inflation des activités de la fin de l'année, avant le reconfinement, peut-être, on n'espère pas. Donc, on va essayer de continuer jour après jour, jeudi après jeudi, cette école de prière. Alors, cette année, justement, en raison de l'année dernière, qui est un petit peu particulière, sera également un peu spéciale aussi, puisque nous allons terminer d'abord le thème que nous avions enclenché, entamé, donc qui était la lecture commentée dans l'évangile de Saint Marc. Et puis nous enchaînerons ensuite avec un autre thème qui est « Mont et montagne de Terre Sainte ». Donc l'idée étant de parcourir la Bible, de parcourir l'histoire du salut à travers également la géographie, et donc de s'arrêter aux grandes montagnes qui parsèment et qui jalonnent la Bible, la montagne étant par excellence dans les livres bibliques le lieu de la rencontre avec Dieu. Enfin, c'est pas juste pour le plaisir de parler quelque chose et de faire arbre et arbuste, mais non, c'est mont et montagne parce que la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu, et donc il y a de nombreuses montagnes, le mont Sion, le mont Horeb, le mont Carmel, le mont Hermon, le mont Nebo, enfin, de nombreuses montagnes, le Golgotha bien évidemment, c'est une toute petite colline, mais qu'on intégrera, et donc voilà, l'idée c'est, de manière un petit peu plus légère que de lire tous les livres de la Bible les uns après les autres, mais de prendre ces grands moments de l'histoire biblique qui ont lieu sur des montagnes, et à partir d'eux, eh bien, d'essayer d'avoir une vision un petit peu complète de l'histoire du salut à travers toute la Bible et à travers les grands événements qui se sont déroulés sur ces montagnes. Alors, pour le moment, donc, nous terminons l'évangile de Saint Marc, nous ne terminerons sans doute pas aujourd'hui. Pour les personnes qui nous rejoignent et que nous saluons, nous nous réjouissons, c'est vrai qu'elles vont commencer directement avec la Passion. Donc c'est vrai que c'est une entrée en matière sans échauffement, mais déjà au sommet. Mais en même temps, nous le verrons dans quelques instants, c'est ce qui est arrivé à Simon de Cyrène, qui a été lui aussi attrapé, réquisitionné et projeté comme ça dans la Passion du Seigneur. Donc voilà, c'est un petit peu ce que vous vivez aussi ce soir, notamment les nouveaux, qui est arrivé, qui est directement projeté dans la Passion du Seigneur. Alors, nous procédons généralement ainsi, je lis le texte dont nous parlons. Ensuite, je laisse un petit temps de silence pour que chacun puisse le relire et se l'approprier davantage et éventuellement s'arrêter sur quelque chose qui semble étonnant ou important. Et puis, je commente petit à petit, verset par verset à peu près, notamment quand on est dans la Passion, je pense qu'il est bon de s'arrêter beaucoup. Et évidemment, la rencontre se nourrit aussi de vos questions, de vos remarques. Alors cette année, sur une suggestion habile d'un auteur anonyme, je tairai le nom pour garder sa modestie, à ce procédé s'ajoutera aussi quelque chose qui effectivement me semble très fructueux, j'y avais pas pensé, qui est tout simplement de vous donner à la fin ce que vous avez à lire pour la fois suivante. Enfin, et comme ça, pour la fois suivante, eh bien, vous avez quelques lignes à lire, déjà à méditer. Je vous encourage beaucoup à avoir un petit carnet dans lequel vous notez les questions, et donc plutôt que vous découvriez le texte comme ça à 20h35 après une choucroute avalée en quatrième vitesse à la maison, et que vous assoupissiez gentiment dans ce salon bientôt très chaud quand nous aurons remis le poêle, et bien là, voilà, l'œil vif et l'esprit alerte, le matin chez vous, ouvrant les fenêtres, vous lisez l'évangile. Alors, c'est bien de lire le texte sans s'arrêter, non, c'est un petit texte, mais voilà, de lire d'une traite pour voir un peu l'unité du texte, puis après de le relire une deuxième fois en vous arrêtant davantage, en essayant d'imaginer les personnages, éventuellement de vous identifier, même, pourquoi pas, un des personnages du texte, et puis d'essayer tranquillement, verset après verset, de vous approprier le texte, et puis, comme vous le disiez, si vous avez des questions, de les noter. Également, si vous avez des versets qui vous touchent particulièrement, eh bien, il est bon aussi de se faire un petit grenier de nourriture spirituelle. Vous pouvez aussi noter le texte du verset, le passage, et ainsi eh bien, faire un petit livre qui vous servira selon ce que vous allez prier à l'église, ce que vous faites oraison. Il n'y a rien de mieux que de faire oraison à partir de la parole de Dieu et de revenir à la parole de Dieu. Voilà, donc c'est le petit plus de cette année. Est-ce que vous avez des questions? Donc nous allons rentrer dans le texte directement. Nous reprenons donc au chapitre 15, verset 20, ou plutôt 21, au moment où Jésus, après avoir été moqué par les soldats romains, sort de Jérusalem et marche vers le calvaire. Je vais vous aider aussi de la carte pour vous immerger encore plus dans ces événements. Donc nous sommes à la page 36, la colonne de gauche, donc au verset 20 milieu. Crucifixion et mort de Jésus, fils de Dieu. Puis de là, il l'emmène pour le crucifier. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit le lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait, « Et toi qui détruis le sanctuaire, il le rebâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Alors évidemment, ces événements, ils nous sont bien connus, nous les méditons le vendredi de carême, notamment lorsque nous faisons notre chemin de croix, et puis ils font plus intensément encore le cœur de notre foi, bien entendu, le don du Fils de Dieu pour nous. Alors il ne s'agit pas évidemment de vous faire découvrir voilà, ce qui est le sens de notre foi, mais peut-être de nous arrêter sur certains détails, sur certaines expressions, pour aussi mieux en comprendre la profondeur, et puis également mettre ces épisodes, ces événements en lien avec des passages de l'Ancien Testament, pour voir également comment l'Ancien Testament, comment les psaumes, notamment, nous annonçaient déjà ce qui se passe dans la vie du Seigneur. Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant à noter, c'est ce personnage de Simon de Cyrène, parce que finalement, Saint-Marc veut aussi nous faire rentrer en quelque sorte dans la passion. Et Simon de Cyrène devient d'une certaine manière le modèle du disciple. Il réquisitionne pour porter sa croix. Et ce sont exactement les mêmes mots que les mots employés par Jésus un peu plus tôt dans l'évangile de Saint-Marc également. Donc on trouve ça en Saint-Marc 8, 34. Celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix. Et Saint-Marc aurait pu employer beaucoup d'autres expressions. Il aurait pu dire, il réquisitionne pour aider Jésus, pour soulager le Seigneur, mais inspiré par l'Esprit Saint, intentionnellement, il prend la même expression pour montrer que Simon de Cyrène est ce modèle du disciple qui participe vraiment à la passion du Seigneur. D'autant que si Saint-Marc le présente comme le père d'Alexandre et de Rufus, on peut penser que ce sont des personnes connues, voilà, des auditeurs de l'Évangile ou des premiers lecteurs de l'Évangile, et que donc Alexandre et Rufus sont chrétiens. Donc on peut penser que Simon Cyrène, peut-être, s'est converti et que de disciple un petit peu imposé et réquisitionné, il est devenu, voilà, en se mettant à la suite du Christ, il a sans doute été bouleversé par cet homme avec qui il portait la croix, que Simon de Cyrène est devenu à son tour chrétien. Ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer que Simon est un prénom parfois grec, mais surtout juif, qu'Alexandre, son prénom pour le coup 100% grec, et que Rufus, c'est un prénom 100% latin. Et donc il y a une espèce d'universalité aussi dans cette figure de Simon de Cyrène, pour montrer aussi, voilà, que nous soyons juifs, grecs, latins, que nous soyons originaires de Cyrène, donc la Cyrène c'est la Libye actuelle, donc que nous soyons originaires de la diaspora, que nous soyons un juif né hors de Jérusalem, ou précisément que l'on soit de Jérusalem, c'est quand même en Jérusalem que tout ça se passe, eh bien nous sommes tous appelés à porter la croix avec Jésus et à vivre vraiment de ce qui fait le cœur de l'identité de disciple, à savoir cette compassion, ce compagnonnage avec le Christ. Un auteur aussi qui commande dit que le fait qu'il revienne des champs et qu'il soit un peu comme ça réquisitionné à l'improviste n'invalide pas le fait qu'il soit un disciple. Parce que à nous aussi, Dieu peut à l'improviste nous demander une mission particulière, peut nous appeler à une vocation auquel nous ne nous attendions pas. Et donc il n'y a pas forcément besoin d'une préparation, il n'y a pas besoin d'être humainement, d'avoir bien posé toutes ses marques et d'avoir bien tout contrôlé pour être appelé à être disciple de Jésus. Comme Saint Paul, sur le chemin de Damas, pour certains, cela les surprend ainsi, tout à coup, comme c'est le cas de Simon de Cyrène. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de retenir Simon de Cyrène vraiment comme figure du disciple, un peu improvisé, mais qui, sans doute, au fur et à mesure de la marche, s'unit de plus en plus de cœur avec le Christ, au point, comme vous le disiez, que ces deux garçons sont sans doute devenus chrétiens.
Est-ce qu'on sait historiquement s'il y a une marge de manœuvre, en fait, comme il a réquisitionné, est-ce qu'il peut dire non, est-ce qu'il fait prison, est-ce que finalement, c'est un choix libre qu'il pose effectivement de porter la foi, ou si de toute façon si le Romain lui demande, sinon c'est la prison,
Oui, je pense que c'est même pas la prison, mais je pense qu'effectivement il est sans doute fouetté, molesté. C'est une armée d'occupation qui réquisitionne quelqu'un. Et en plus, voilà, si ce sont les mêmes qui ont déjà frappés, injuriés, qui sont moqués du Christ, on peut penser déjà qu'ils sont dans une disposition intérieure pas très bienveillante. Donc je pense que là, ils le ramassent Mais j'avais, ce qui est beau, c'est de voir que sa marque dépasse justement ces circonstances historiques, un petit peu de réquisition, et bien pour voir ce que nous méditons justement dans les stations du chemin de croix, à savoir que et bien, le Christ n'est pas tout seul pour porter sa croix, mais que providentiellement, Dieu permet, Dieu veut qu'il y ait un homme qui porte sa croix avec lui, et que cet homme devienne pour nous tous qui lisons l'Évangile, et bien la figure du disciple qui nous représente tous dans ce monde. Non, je sens contrarié, Marianne.
Non, mais c'est vrai que comme effectivement il y a ce côté punition,
ouais.
Ça me paraît moins évident que ce soit l'image du disciple. C'est très beau de penser que c'est l'image du disciple, mais ça me paraît moins évident vu qu'il y a une sentence et... Après, si vraiment... je ne sais pas si on lui aurait demandé de porter la croix de Barabbas, je ne sais pas s'il aurait fait, s'il était vraiment hostile à la personne, en disant, je sais pas, éthiquement, je préfère faire souhaiter qu'aider un voleur, tandis que là, voilà.
Donc, en fait, il y a un peu deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a une dimension historique où on peut penser qu'effectivement, le fait d'avoir porté la croix avec le Christ a changé sa vie. Parce qu'on peut penser que ses fils sont devenus chrétiens et que le Rufus dont parle saint Paul dans l'épître aux Romains est le même Rufus que le fils de Simon Cyrène. Donc ça, c'est, on en reste vraiment à la personne historique de Simon Cyrène et puis à son parcours personnel. Puis après, il y a une dimension symbolique, c'est-à-dire que une fois que les apôtres, que les saintes femmes, que les disciples ont repensé à ce qui avait eu lieu le vendredi saint, et qu'ils l'ont repensé dans la lumière de l'Esprit-Saint reçu à Pentecôte, ils se sont rendus compte que, providentiellement, un homme avait été appelé à participer le plus intimement, même si c'était d'abord corporellement, mais c'était d'abord extérieurement, mais n'empêche qu'il a participé à l'acte le plus important de toute l'histoire de l'humanité, à savoir... porter la croix du Christ.
Mais c'est pas, ouais. En fait à ce moment-là qu'on voit qu'il est le modèle du disciple, c'est en relecture a posteriori.
En relecture a posteriori, et c'est une manière pour l'évangéliste de dire regardez, nous pouvons tous porter la croix spirituellement avec le Christ, parce qu'un homme, providentiellement, l'a porté physiquement. Et que bah, la croix du Christ n'est pas quelque chose que le Christ porte tout seul, que ce soit corporellement le vendredi saint ou que ce soit spirituellement dans toute l'histoire du monde.
Maria, elle aurait voulu que les gens disent « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter ?» Ah, il y en a un qui...
Moi.
Non, mais évidemment, il y a quelqu'un dans la foule qui porte déjà spirituellement la croix du Christ avec lui, c'est la première. Mais il faut aussi des exemples justement extérieurs, charnels, qui puissent justement servir de symbole aussi à... Parce que c'est plus dur pour Saint Marc de décrire l'intériorité de la Sainte Vierge que de décrire le fait que, voilà, physiquement, Simon Cyrène porte la croix.
Et dans les rapproches, en fait, qui fera le Christ plus tard, est-ce que là, c'est inclus, en fait, que, ben, au moment de porter la croix, ben, il n'y a personne, en fait, de mes proches
qui nous reproche.
Quand il apparaît, en fait, ah ouais. Après la résurrection,
ouais.
Il est gros, un peu, quand même. Enfin, il leur dit...
Certainement.
Oui, certainement. Mais est-ce que, en fait...
Je pense qu'il y a, surtout dans un des évangiles, je ne sais plus lequel, le fait qu'il leur... il leur reproche plutôt leur incrédulité au moment de la résurrection. Mais je ne vois pas de passage où il leur dit pas là. Après, il y a des tatouages. Non,
je n'étais pas là. Ils étaient, ils n'étaient pas là. Ils m'ont tous abandonné.
Je ne vois pas ça, ça je vous le dis, ils m'ont tous abandonné.
Abandonné,
c'est vrai que.
Y a, l'évangéliste dit, et prenant la fuite, ils l'abandonnèrent. Le Christ dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans les psaumes, il y a un passage effectivement prophétique où le psalmiste dit « J'ai cherché quelqu'un pour me consoler et porter ma peine et je n'ai trouvé personne. » Mais je vois pas là comme ça dans ma tête. Malheureusement, pas les rendus par cœur.
Pas au moment d'agonie, mais autrement pas pendant la passion. Hein. Au moment d'agonie, ils le reprochent, oui, mais pas au moment de la passion.
Et vous voyez, en lien justement un petit peu avec cette patience du Christ, bon, je saute un petit peu quelques versets, mais au verset 27, vous avez « Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. » C'est au verset 27. Et ça, ça entre quand même en résonance avec la question des fils de Zébédée, Jacques et Jean, ordonne que nous siégions l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans la gloire. Et là, évidemment, ce serait le moment ou jamais d'être à la droite et à la gauche, mais ce n'est pas la gloire, c'est la croix, ça ne s'agit pas de siéger, mais d'être crucifié. Et là, il n'y a plus de disciples, et à la place des disciples, il y a deux malfaiteurs. Et en même temps, ce qui est, moi je trouve absolument extraordinaire, c'est de penser que le Christ, quand il entend Saint Jacques et Saint Jean dans leur innocence, ingénuité et un peu vantardise, peut-être poser cette question, ne les méprise pas. Quoi. Enfin, il leur dit que vous ne savez pas ce que vous demandez, mais il le dit, je pense, avec une voix plutôt douce et plutôt sans doute le cœur un peu brisé, alors qu'il pourrait leur dire, mais. Au moment où en fait, il dit, vous ne serez pas là, refusez-vous. Et c'est très beau, je trouve. C'est très beau, cette miséricorde du Christ qui patiente, qui est clair, qui est au père de donner ces places-là, et ça, alors qu'il aurait très bien pu, en une phrase, les clouer au mur.
De toute façon, c'est un inconnu qui ne porterait pas du Christ.
Oui, c'est sûr que là, c'est.
On va lui apprendre ce soir à avoir un Japon, c'est clair, mais on parle de Dieu. C'est derrière lui aussi, c'est lié. Je pense un peu au bruit de la dernière heure. Il arrive, en fait, c'est lui qui partage le bon de la
chanson. C'est qui revient des champs, en plus.
Oui,
mais oui, c'est très beau.
Il y a beaucoup qui auraient pu être aussi, de toute façon, le pas de qui le faire.
C'est l'idée de ça c'est par là oui. C'est sûr qu'ils vont peut-être pas pris effectivement quelqu'un qui allait tomber
Elles ont un rôle
plus héroïque
que beaucoup d'hommes. Elles sont là, mais elles sont à l'écart.
C'est aussi qu'il y a une neutre, quoi. Un patient qui. L'évangéliste veut dire qu'il est neutre, quoi. Qu'il est ni.
Oui. Ils ne prennent pas Saint-Jean qui est à côté, ils ne prennent pas non plus un adversaire hostile. Ils prennent, tiens, c'est celui-ci, Et de même, Jésus, au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Alors, effectivement, c'est aussi bien connu, hein, Golgotha, donc en araméen, ça veut dire effectivement le sommet crâne, sans doute parce que voilà, c'était un petit monticule qui avait un peu une forme de crâne, tout simplement, donc un monticule un peu pelé. Si vous voulez tout savoir, d'après les fouilles menées à la basilique du Saint-Sépulcre par le franciscain Virgilio Corbo dans les années 1960, des traces de taille de pierre de culture ont été mises à jour. Elles indiquaient une utilisation du mont du Golgotha bien avant sa mention dans le Nouveau Testament. Hors de la ville, le lieu servait de carrière de pierre dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les cavités furent recouvertes de terre et le lieu fut transformé en jardin. C'est le jardin du Golgotha dont parlent les évangiles. Par ailleurs, des traces de culture furent trouvées dans la grotte de l'invention de la croix. Dans le même temps, tout un réseau de grottes sépulcrales fut édifié à l'ouest de la carrière. Les tombeaux furent creusés dans de hautes parois rocheuses verticales. À 35 mètres du sépulcre, un gros monolithe calcaire avait été isolé au milieu des carrières. Donc les dimensions du bloc sont encore impressionnantes. Sa hauteur totale fait en moyenne 11 mètres. Et donc son sommet a la forme étrange d'un crâne qui se situe au niveau du sol de l'actuelle chapelle du Golgotha. Une étude du bloc calcaire a permis de faire des recherches sur la grotte qu'il renferme et dont l'ouverture se situe au niveau du sol de l'église. Pas détaillé comme des fous, mais enfin voilà, cette idée, c'est une carrière de pierre dans laquelle on a petit à petit taillé, et puis à partir d'un certain moment, donc on a fait un jardin, puis on s'est servi donc des parois rocheuses verticales pour faire des tombeaux, et puis est resté donc voilà, ce monolithe calcaire qui était d'une pierre différente et moins exploitable, et donc qui s'est petit à petit détaché donc à la sortie de Jérusalem. Et qui paraissait justement être un lieu malheureusement favorable pour exposer les crucifiés, puisque l'idée des Romains était que le supplice doit être fait le long des routes, le long des voies, à un endroit en tout cas visible, pour impressionner les foules et évidemment les décourager notamment de se révolter. C'était le supplice aussi des révoltés, donc cette idée d'impressionner les foules, et donc on choisit ce petit monticule, qui, en raison de ce qu'il est calcaire, ce qu'il est une forme de crâne, ce qu'il est pelé, et bien donc est appelé Golgotha. Il y a une tradition après, mais qui n'a pas de fondement historique, hein, qui voudrait que le crâne d'Adam ait été enterré dans l'immédiate proximité du Golgotha, et donc le mont du crâne soit le crâne d'Adam, mais bon, c'est plus symbolique pour montrer que le nouvel Adam vient racheter la faute du premier Adam et qu'il y a une espèce de rencontre par-delà des siècles entre la sépulture d'Adam, la mort du Seigneur et puis sa propre sépulture. C'est plus imagé, il n'y a pas de fondement historique. Ce qui est impressionnant, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est donc que le Christ est crucifié en dehors de la ville. Donc, en dehors des murs de Jérusalem, et que ça, c'est à relier avec les prescriptions du Lévitique. Dans le Lévitique, il y a de nombreuses instructions sur la manière de célébrer les sacrifices, et notamment, vous savez, on choisit deux boucs. On tire au sort un bouc pour Dieu et un bouc pour Azazel, c'est-à-dire pour le démon. Et le bouc pour le Seigneur est offert dans le temple ou dans la tente de la rencontre quand on est dans le désert. Donc, ce qui préfigure le temple quand les Hébreux sont encore dans le désert. Et ce bouc est offert justement en pardon des péchés. Et l'autre bouc, on lui impose les mains pour transférer justement la culpabilité, pour transférer les transgressions et les fautes sur ce bouc, et puis il est ensuite envoyé dans le désert pour se perdre. Voilà.
à la fois parce que le désert est dans son côté dangereux et dépourvu de vie, est identifié à un lieu du démon. Enfin, le désert peut aussi être identifié à un lieu divin, en tant qu'il est un lieu favorable de rencontre avec Dieu, mais enfin, le désert a un peu ces deux facettes, et donc on envoie le bouc en dehors du camp, et le bouc qui avait été offert pour Dieu, une fois qu'il a été offert, que son sang a été versé, bien, de même on le sort du camp et on le brûle hors du camp. Donc il y a cette idée que les animaux offerts déjà dans l'Ancien Testament en réparation des péchés, que ce soit le bouc pour le Seigneur ou le bouc pour Azazel, eh bien, sont tous les deux transportés en dehors du camp, comme si on transportait le péché, la transgression, l'offense, en dehors de la présence du peuple, pour que le peuple soit vraiment un peuple sanctifié, un peuple saint, pour le Seigneur. Et donc, saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, qui, dans la théologie moderne, n'a pas été écrite par saint Paul, c'est grave, saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, nous dit justement que le Christ, à l'exemple de ces animaux, eh bien, a été immolé en dehors du camp. Et il nous dit, et nous avons aussi à sortir de ce camp pour aller à sa suite. Et nous avons à sortir des mentalités du monde, nous avons à ne pas vivre uniquement pour cette vie terrestre, mais nous avons à sortir pour suivre le Christ qui nous mène à une cité plus grande ou plus parfaite, qui est le ciel. Donc il y a un peu deux symboliques en une chez saint Paul, à la fois cette idée donc que le Christ accomplit la figure des boucs du Lévitique, puisqu'il porte vraiment notre péché, et il est sacrifié en dehors du camp. Et puis cette idée que justement, eh bien, nous avons à le suivre pour qu'il nous mène sur le chemin du ciel. Et que pour cela, nous avons à sortir de la Jérusalem ancienne qui devient toujours un symbole de péché. Donc il y a plusieurs images en une. Mais l'idée, c'est que le Christ d'abord sort du camp. À l'image des boucs qui étaient donc pour l'un envoyés dans le désert et pour l'autre brûlés en dehors du camp.
Le bouc émissaire.
Exactement, c'est le bouc émissaire.
Ah
oui. C'est un gros tapis quand même. Hein. Ouais, c'est un bouc. Il y avait des cornes. Mais effectivement, c'est de là d'où vient le bouc émissaire. Il y a une grande théorie de René Girard justement sur le bouc émissaire que je ne maîtrise pas assez pour vous exposer ce soir, mais qui dit justement que le Christ, eh bien, s'offrant lui-même, eh bien, brise en quelque sorte la chaîne de la violence, puisque on veut toujours se venger d'une violence sur une autre, d'un mal sur un autre, que le Christ répond au mal par le bien, mais je ne connais vraiment pas assez les théories de René Girard en profondeur pour les exposer ce soir. Alors il le crucifie, et lui donnant du vin aromatisé de myrrhe, il n'en prit pas. Donc un petit mot sur ce vin. Donc ne confondons pas cette première boisson avec le vinaigre qui sera donné à la fin. Là, pour l'instant, c'est une espèce de boisson un peu anesthésiante. C'est pas le vinaigre qu'on mettra dans une éponge à la fin lorsque le Christ dira « j'ai soif ». Là, c'était effectivement une coutume chez les Juifs que de donner une substance pour apaiser la douleur. Alors, le Christ n'en prend pas, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour garder sa conscience et son libre arbitre jusqu'au bout. Si on veut aimer jusqu'au bout, bien, il faut aimer librement et donc avoir sa conscience et son libre arbitre. Pour ne pas non plus voir sa douleur artificiellement adoucie, puisque le Christ s'unit dans sa croix à tous les souffrants du monde, et il s'unit aussi aux souffrants qui n'ont pas de boisson anesthésiante à leur disposition. Et puis, bon, de manière plus mineure, pour respecter sa promesse, puisqu'il avait dit lors de la dernière scène qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne qui se met dans le royaume de Dieu. symbolique. C'est intéressant aussi de noter que le Saint-Frère nous confirme aussi ce qui est dit dans l'Évangile. Je cite, l'empreinte du Saint-Frère présente au niveau de l'épaule droite et sous l'omoplate gauche des meurtrissures qui témoignent qu'une lourde charge pesait sur l'épaule et que cette charge devait basculer sur le dos lors des chutes. Ces blessures, donc on remarque sur l'épaule droite et l'omoplate gauche, sont postérieures à la sagellation, dont elles abrasent les marques. Quant aux deux genoux, ils sont le siège d'écorchures, séquelles, des chutes. Et la Bible chrétienne commence en disant justement que, finalement, une fois de plus, la science contemporaine vient étayer la piété populaire, puisque effectivement, ces trois chutes que nous méditons dans chaque chemin de croix, eh bien, elles ne sont pas en tant que telles nommées dans l'Évangile. Donc, des esprits rationalistes pourraient se dire d'où viennent ces stations que l'Église propose, etc. Et là, il est bon de voir que, effectivement, ces méditations eh bien, sont ancrées dans la tradition immémoriale de l'Église, notamment dans la tradition orale, et puis qu'elles sont confirmées, effectivement, par le Saint-Suaire qui atteste, et malheureusement, qu'effectivement, il y a aussi des écorchures sur les genoux. Puisque vous le savez, donc, le Christ a sans doute porté uniquement le patibulum, c'est-à-dire la barre horizontale, la traverse horizontale, et pas toute la croix. Donc, ce qui explique effectivement ces marques sur l'épaule droite et le ventre gauche. C'est quasi confirmé, je pense. Alors, de même, je vous lis, puisque nous allons arriver au verset 24, alors il le crucifie. Donc, pareil, je vous lis à partir du Saint-Suaire. Donc, les clous doivent traverser les poignets en atteignant le nerf médian, d'où la rétractation du pouce sur le Saint-Suaire. C'est que le pouce n'apparaît pas sur l'homme du frère. Les pieds étaient encloués l'un sur l'autre, jambes plus ou moins fléchies, suivant qu'on voulait prolonger ou raccourcir l'agonie qui pouvait durer jusqu'à 1, 2 ou 3 jours. Le supplice de donc cette idée aussi d'impressionner les foules qui défilent, et donc que le supplice de la croix soit lent. Le supplice de la croix venait en effet plus encore que de ces horribles blessures, de ce que la suspension du corps empêchait la cage thoracique d'expirer suffisamment d'air, entraînant une viciation du sang, des crampes musculaires et un début d'asphyxie que seul pouvait ralentir un redressement, prenant appui sur les pieds, cédant du support comme on avait un. Mais cet effort causait de telles douleurs que le corps retombait bientôt dans sa position affaissée. Sur le sphère, on peut relever les traces de cette alternance, les rigoles de sang divergents selon l'une et l'autre des positions du crucifié. Donc, à la fois, bon, ce qui atteste vraiment de l'historicité du Saint-Sphère, on imagine mal comment un auteur du Moyen-Âge qui n'a jamais vu de crucifié, puisque le supplice de la croix n'existe plus depuis plusieurs siècles, aurait pu, de façon aussi précise, reconstituer ce qui, au départ, dans le réel, est un mouvement, effectivement, du crucifié, et donc qui saigne de manière différente selon qu'il est dans la position normale, dans la position affaissée. Et évidemment, ce qui aussi nous fait rentrer encore davantage dans l'horreur de la passion, parce que souvent, bah, quand on voit une croix, on imagine un Christ statique, évidemment qui souffre déjà énormément, mais ça ajoute évidemment à la souffrance du crucifié. Et puis, la dernière chose, c'est très impressionnant aussi de voir combien sa marque est discrète sur les souffrances de Jésus. Alors qu'il pourrait consacrer des pages à décrire la passion et pour émouvoir le lecteur, pour lui faire sentir vraiment ce qui s'est vécu sur le Golgotha. Alors c'est vrai que sans doute les lecteurs de Saint-Marc savent ce qu'est une crucifixion, donc ils n'ont pas besoin qu'on en décrive autant qu'à nous, qui enfin, ce supplice est étranger à nos vies quotidiennes. Mais ce qui peut-être aussi explique ce silence, en tout cas cette discrétion de Saint-Marc, c'est que il ne décrit pas la mort d'un héros. Il décrit d'abord le chemin de victoire et de rédemption du Fils de Dieu. Et donc, voilà, c'est pas la mort de Roland. C'est pas voilà, comment, avec héroïsme, abnégation, un homme particulièrement vertueux meurt, il est mis au tombeau et sa vie sur terre s'arrête là. C'est-à-dire que pour Saint-Marc, dans la foi, il voit aussi qu'il faut mener le lecteur à la résurrection. Mais c'est vrai que c'est, moi je trouve c'est toujours très impressionnant cette économie d'écriture des évangélistes qui n'écrivent pas d'abord pour la sensibilité, qui n'écrivent pas d'abord pour émouvoir, mais qui écrivent d'abord pour la foi. Et qui ne veulent pas que justement en décrivant trop peut-être le côté humain de la passion, on en oublie que c'est le Fils de Dieu qui souffre. Et que c'est le Fils de Dieu qui maîtrise aussi ces événements. Alors, on termine peut-être avec ce verset. Comme vous voyez, il y a des mots en italique. Alors, ces mots en italique, pourquoi ils sont en italique ? Parce que c'est une citation. Saint Marc ne prend pas la peine de dire qu'il cite un psaume, mais il, pour lui, en fait, la parole de Dieu et les événements historiques sont en constante interaction. Pour un juif, il n'y a pas la Bible que j'ai dans ma bibliothèque et puis la vie que je vis au quotidien. Pour un juif, toute sa vie est une histoire sainte. Et toute la vie du peuple élu, eh bien, résonne des paroles révélées par Dieu. Et donc, il ne prend pas forcément la peine de dire, comme le dit le psaume. Mais c'est évidemment une citation d'un psaume. Donc c'est le psaume 21, ou selon la nouvelle numérotation, le psaume 22, que vous avez dans vos petits feuillets. Hein. On va prendre le petit feuillet. Donc c'est sur la troisième page, plutôt vers la fin. Mais tout ce psaume, en fait, de manière assez extraordinaire, décrit la passion. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. Enfin, c'est pareil, quand on imagine que c'est écrit 5 siècles au moins avant le Vendredi Saint, c'est quand même assez bouleversant. Alors, il y a effectivement cet accomplissement de la prophétie, et je termine juste sur une petite note que j'ai trouvée assez belle. La traduction là, de l'évangile que vous avez dit « Puis il se partage ses vêtements en tirant sort pour savoir la part de chacun. » Et en fait, le texte grec, il dit « Il se partage ses vêtements en tirant sort qui prendra quoi ?» Et un commentateur souligne que c'est le même mot pour dire prendre la croix, porter la croix, et pour dire prendre les vêtements. Et que, en même temps que le disciple prend la croix, les malfaiteurs, eux, prennent les vêtements. Et que, il y a finalement, devant le mystère de la croix du Seigneur, eh bien, deux attitudes fondamentales. Celui qui, dans la foi, voit dans le condamné le Fils de Dieu, le Sauveur, son Seigneur, et communie avec lui à cet amour, à cette générosité, à cette offrande, et puis ceux qui ne voient qu'un condamné dont Alors on va se partager les vêtements pour ne pas avoir perdu sa journée et repartir au moins avec quelque chose après cette base de données. Donc il y a vraiment ces deux visions, vision vraiment dans la foi et la vision purement humaine. Qui prendra quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on prend la croix avec le Christ ou est-ce qu'on prend juste l'événement et puis on prendra? On verra que ça, c'est beaucoup à l'œuvre aussi dans ceux qui plus tard sont devant la croix du Christ, entre le centurion qui dira justement cet homme-là était le fils de Dieu, et donc qui a, c'est un centurion, donc, pas un des apôtres, mais qui a cheminé vraiment dans la foi pour arriver à cet acte de foi, et puis au contraire les grands prêtres et les scribes qui eux, si tu es le Messie, descends de la croix, donc ils sont vraiment dans cette négation de la croix, et qui, eux, n'ont rien compris. Et on verra comment justement ces paroles des grands prêtres et des scribes, en fait, prolongent la tentation du démon, en fait. Comment finalement c'est la même chose, quand le démon dit, si tu es le fils de Dieu, monte en haut du temple et puis saute en l'air de manière à faire un prodige et que tout le monde t'acclame. Donc finalement, c'est exactement la même tentation qu'on retrouve à la fin sur le Golgotha où les grands prêtres disent si tu es vraiment le fils de Dieu, enlève les clous, descend de la croix, fais un prodige et là nous verrons et nous croirons. Et donc, c'est toujours la même tentation finalement d'être un sauveur sans la croix, d'être un sauveur qui utilise sa puissance pour se mettre en avant, pour faire des prodiges, pour la gloire personnelle. Et le Christ, évidemment, refuse cette parodie de sauveur pour être au contraire un sauveur qui se donne, qui s'oublie et qui prend la croix. Mais ça, nous le verrons dans 15 jours. Est-ce que vous avez des questions là, sur le petit passage qu'on a mis? Pour combien important. Si vous n'avez pas de questions, donc pour la prochaine fois, si vous voulez, vous pouvez lire donc du verset 25 au verset 39. J'espère qu'on ira vraiment au-delà. Donc du verset 25 au verset 39. Et pour voir ceux qui auront lu, je poserai une question parce que dans ce passage, il y a quelque chose d'un peu étonnant. Alors, je ne veux pas dire. Pas au niveau du contenu du texte, parce qu'il y a beaucoup de choses étonnantes, il y a beaucoup de choses à commenter, à expliquer, sinon on ne fait pas d'école de prière sur l'évangile selon saint Marc. Mais là, au niveau du texte, il y a quelque chose d'un peu étonnant. Donc, après, on verra. Suspense. Il y a aussi à repérer la chose étonnante. Ouais, donc, dans le déroulé de la soirée, maintenant, nous allons...
Avec la formation
de Bondard, après, il y en a peut-être qui verront et qui ne verront pas, mais je pense que si vous lisez attentivement, verset par verset, vous verrez quelque chose. Je pense que c'est quasi dans toutes les versions. Mais en tout cas, c'est sûr dans la version de... Alors, j'ai voulu recommander aussi des livrets, notamment pour les nouveaux, mais c'est en rupture de stock, ces livrets. Mais je pense quasiment dans toutes les versions de l'évangile de Saint-Marc que vous avez. Il y a une chose étonnante. Pas non plus. En plus, la révélation. Je ne vais pas faire monter non plus la chose. Et donc, dans le déroulé de la soirée, maintenant nous montons donc à la chapelle. Je vous encourage à prendre, si vous souhaitez, une chaise, soit pour vous asseoir, soit pour vous appuyer quand vous êtes à genoux. Avec cette réalité absolument extraordinaire que nous venons de lire l'évangile de Saint-Marc, nous venons d'entendre que le Christ eh bien, a vécu ce chemin de croix, qu'il a porté sa croix, qu'il a été crucifié avec ce supplice que nous venons de lire et d'entendre, et nous montons deux étages, et il est là. C'est quand même extraordinaire. Inouï.